Écrivain voyageur, Patrice Favaro est notre invité.
Il participe à une rencontre avec d'autres auteurs dimanche à Bannon. Amoureux des Hautes-Alpes et plus précisément du Kera, Patrice Favaro a souvent et longtemps résidé en Inde, ce qui a nourri son inspiration. Bonjour Patrice.
Bonjour François, bonjour tout le monde.
On se connaît depuis fort longtemps, alors ne vous offusquez pas, chers amis auditeurs, si vous nous entendez nous tutoyer, parce que nous avons l'habitude de le faire. Et en plus, cette année, on a réalisé une belle opération, tous les deux, Patrice, avec l'aide de Mario et nos amis de la médiathèque de Château-Arnoux-Saint-Auban, et bien sûr les scolaires du Carrefour, sur des ouvrages que tu as écrits. Et c'était magnifique, une belle expérience. Cette fois-ci, c'est à Bannon qu'on va te retrouver pour parler voyage dans une... après-midi un petit peu particulière, puisqu'il y aura aussi deux autres auteurs. Et Patrice Favaro, c'est quelqu'un qui est très attaché au Kera, mais aussi à l'Inde.
Oui, on va se retrouver, je dirais même, dès la matinée, puisque la rencontre commencera vers 11h, avec effectivement deux autres auteurs. Et là, je présenterai d'une part mon dernier livre paru, qui s'appelle Kera, et également aussi des originaux et le carnet de voyage de mon épouse, Françoise Malaval, qui seront présentés aussi à cette occasion-là.
C'est une manifestation qui s'appelle Carnet de voyage d'ici et d'ailleurs, qu'organisent nos amis Marc et Isabelle Gaucheran du Bleuet à Bannon, bien sûr, cette magnifique librairie. Ton sentiment sur cette librairie, Patrice ?
Pour moi, c'est une véritable institution, puisque chaque fois que j'ai des amis qui viennent à la maison, la première des choses qu'ils me disent, c'est si on allait faire un tour au Bleuet.
C'est une bonne chose.
Voilà, c'est une très bonne chose. Et puis, je suis ravi que la librairie ait pu surmonter les difficultés qui ont été les siennes ces dernières années, avec un couple de libraires qui est à la fois très, 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 très au courant et au fait de ce qu'est la littérature et le livre de manière générale, mais qui en même temps veulent faire aussi de cette librairie un vrai lieu d'animation, de vie, de rencontres culturelles. Alors voilà, on ne peut qu'être ravi de tout cela.
C'est le cas d'ailleurs ce dimanche avec la rencontre à laquelle tu vas participer, Carnet de voyage d'ici et d'ailleurs, mais c'est aussi le cas bien souvent. Et par exemple la veille, le samedi 28 octobre, il y a une balade à Bannon qui est animée par Pierre Lafitte, guide littéraire et partenaire du Centre Journaux de Manosque, et qui va animer cette balade aussi, avec bien sûr un retour au Bleuet pour le verre de l'amitié autour des livres de la balade. Attention, il faut s'inscrire pour cette balade, c'est le samedi 28. Il faut s'inscrire pour cela au centre Jean Giono à Manosque, 04 92 70 54 54, 04 92 70 54 54. Patrice, revenons à nous et à nos moutons. Il n'y en a pas beaucoup dans le Kera, mais bon.
Il y en a quelques-uns quand même.
Quelques-uns,
oui.
Surtout l'été. Ouais. Pourquoi avoir flashé sur cet endroit particulier des Hautes-Alpes, et à quel endroit très précisément ?
Mais je pense que pour l'être qu'on choisit dans sa vie, et comme pour les lieux aussi, il y a de véritables coups de foudre, quoi. Et moi, j'ai été victime de deux coups de foudre. Le premier, ça a été pour ma compagne de toujours, et le deuxième pour ce lieu, qui est au-delà de tous les voyages que j'ai pu faire, au-delà de l'intérêt et de la passion que j'ai pu avoir pour des pays comme l'Inde et puis en règle générale pour l'Asie. Le Kera, c'était le fait de se sentir à la fois chez soi et dans un lieu qui est somme toute vraiment magique. C'est un haut pays, c'est un petit pays qui est constitué de 8 communes. Il se situe à l'est, le plus à l'est, c'est le pays le plus à l'est de la France, la région la plus à l'est, grosso modo entre Briançon et Gap, au niveau de Guillestre, s'ouvre la vallée du Guil, et sur cette vallée du Guil s'ouvrent toutes les vallées du Kera. Et ça a été vraiment une sorte de... C'est ce que j'essaie de traduire aussi dans ce livre, puisque c'est une collection qui s'appelle « Pour l'amour d'eux ». Ça a été... pour moi une révélation, une véritable révélation et un enchantement.
À quel niveau ? La faune, la flore, les habitants ?
Alors, dans un premier temps, les lieux, puisque c'est une montagne qui est à la fois, on a de la haute montagne, mais c'est une montagne à visage humain. C'est une montagne où on peut aisément aller sur les sommets, sur les lignes de crête. C'est une montagne qui est une montagne qui peut être aussi dangereuse. Chaque année, un certain nombre de personnes, malheureusement, ont des accidents. Mais c'est une montagne quand même qui garde un visage humain. Il y a une faune, il y a un habitat protégé aussi, puisque à l'heure où tout les grandes vallées alpines s'équipaient avec des méga stations, eh bien là, les gens ont eu l'idée de faire autrement et de créer des stations-villages.
Donc un regard plutôt humain que tu portes sur
voilà.
Cet endroit.
Et puis une capacité d'accueil aussi, puisque moi, je n'ai jamais été qu'une pièce rapportée par ce pays, j'ai aucune attache familiale, mais c'est aussi le fait de se sentir chez soi dans une communauté de montagne, où dans la mesure où vous acceptez d'y vivre, et vous acceptez surtout, et ça c'est le passage, un petit peu c'est comme le passage, c'est le rite d'initiation, vous acceptez d'y passer les hivers, à partir de ce moment-là, vous faites partie des Kérassins.
Alors, le Keras, évidemment, c'est un endroit très particulier. Le fait d'avoir écrit un livre qui est uniquement centré sur le Keras, alors que tu as écrit plusieurs livres avec des inspirations très différentes sur le voyage ou sur les êtres humains ou sur des portraits, des personnages, etc. Beaucoup de littérature jeunesse également. L'approche de ce livre est vraiment particulière.
Oui, je pense qu'elle est particulière parce qu'elle ramène un petit peu le voyage à ce qu'il a d'essentiel, quoi. C'est-à-dire que le voyage, d'abord, avant toute chose, c'est quelque chose qui permet de mettre une certaine distance entre ce que l'on observe et puis ce qu'on observe surtout en soi-même, quoi. Et pour ça, le Keras, c'est quelque chose de tout à fait particulier puisque quand on se met en marche, comme disait quelqu'un de très Rousseau, quand on se met en marche, son esprit fait de même, quoi. Et ces longues balades que j'ai, ces longues randonnées que j'ai pu faire dans le Keras, je les ai faites aussi de manière double, puisque je les ai faites en marchant aussi pour quelqu'un qui ne pouvait pas marcher à cause de problèmes de santé. Et donc je marchais pour moi et je marchais aussi pour l'autre. Et donc j'avais aussi la nécessité de dire aussi et de ramener avec moi des sensations, des émotions, des cailloux aussi qui chargeaient souvent mon sac à dos, des fleurs, un certain nombre de choses comme ça. Et ce livre, c'était aussi le fruit de cette double pérégrination.
Alors, c'est le fruit d'une promenade rousseauiste, si j'ai bien compris. Patrice, il y a des extraits éventuellement de ton livre que tu voudrais lire ou nous faire partager, quelques lignes.
Peut-être quelques lignes, ouais. Parce que de temps en temps, la montagne vous offre des cadeaux inattendus, des cadeaux assez rares, des cadeaux, on va dire, précieux. Le sentier est étroit, caillouteux, détrempé par la rosée. Mon attention est attirée par un objet de petite taille. Quelqu'un a dû le laisser tomber au milieu du chemin. Sa couleur m'intrigue, un noir brillant comme un carré de zan. Le minuscule amphibien, c'est une salamandre de Lanza. Le minuscule amphibien s'agrippe à une touffe d'herbe humide coincée entre les pierres. À peine plus de 10 cm de long, un corps au relief annelé, entièrement noir, au bout des pattes, des doigts lilliputiens. Un bijou, antédiluvien, taillé dans l'onyx. Une broche vivante, épinglée au manteau brumeux des pentes du viseau. Une parure que je t'offre en photo.
Tu as pris une photo, donc? Oui.
Oui, c'est des choses que je me suis toujours autorisé à ramener en essayant de ne rien prélever à cette beauté-là, quoi.
Mais en même temps, la photo ne dit pas que ça ressemble à un carré de zan, ne dit pas que c'est un reptilien avec des doigts de fée, etc.
Mais la photo ne se suffit pas en elle-même.
Et c'est les mots qui complètent.
C'est les mots qui l'accompagnent. La photo, ça a toujours été pour moi une sorte de pense, c'est le cas de dire, de pense bête. C'est-à-dire que, en règle générale, je ne les regarde jamais après. Mais ça me permet de fixer un instant, et cet instant est fixé dans ma mémoire, et les mots viennent ensuite beaucoup plus facilement.
Donc là, on voit bien l'intérêt des promenades, notamment dans le Keras, et ensuite l'Inde. Alors là, on fait un saut de plusieurs milliers de kilomètres, Patrice. Pourquoi cet amour, tout d'un coup, là aussi un coup de foudre avec l'Inde ?
Alors, je dirais pas que c'est, il s'agit pas d'un coup de foudre. Ça, c'est une, comment dirais-je? C'est une passion, on va dire, plutôt une passion. Oui, c'est une passion dans le sens où il y a à la fois, un amour, un intérêt, et il y a à la fois aussi une sorte de détestation. C'est-à-dire, l'Inde est un pays de paradoxe. C'est-à-dire que s'y mêlent les plus belles des choses et les choses les plus affreuses qui m'était été donné d'observer, quoi. Donc c'est à ce titre-là que l'Inde, c'est pour un, comment dirais-je, c'est une, pour un écrivain, c'est une source inépuisable d'inspiration. Salman Rushdie, dans un de ses livres qui s'appelle Haroun ou la mer des histoires, parle de façon imagée d'un océan d'histoire dans lequel flottent des tas et des tas d'histoires, et il suffit de laisser tomber son fil pour en ramener une à la surface. Et c'est cela qui m'a intéressé, c'est cela qui me passionne, mais ça se situe pas du tout au même niveau que le Kera. Et puis, bon, c'est quelque chose de personnel, mais je peux en parler à l'antenne. C'était aussi une sorte d'agrément entre ma compagne Françoise, mon épouse, et moi-même, puisque elle éprouvait pour l'Inde ce que moi j'éprouvais pour le Kera. Et donc nous avions construit notre vie, pendant plus de 15 ans sur cette articulation.
Un équilibre.
J'allais chez elle et elle venait chez moi.
Avec en plus une grosse différence d'échelle, c'est-à-dire un micro-territoire d'un côté et un hyper-continent de l'autre.
Voilà, on parle de sous-continent indien, mais ah, vrai. Et c'est vrai que l'Inde, on l'a souvent conjugué au plus pluriel, quoi. Et c'est une Inde qui est vraiment multiple, linguistiquement, plus de 35 langues officielles, ethniquement, géographiquement. Et donc, c'est une sorte de constellation, de mosaïque. Et puis, de l'autre côté, ce tout pays, tout petit pays, hein, c'est 8 communes, c'est grosso modo 2000-2500 habitants résidents. Donc, mais c'est cette différence d'échelle entre grosso modo l'infiniment grand et l'infiniment petit.
À quel endroit en Inde vous résidiez avec Françoise?
Alors nous avons eu la chance d'habiter une maison que Françoise a dessinée à Pondichéry, dans un quartier très excentré où nous étions entre guillemets les deux seuls blancs. Et puisque
bon, alors que Pondichéry a quand même un passé colonial,
oui,
intéressant,
important. Il y a tout un quartier qu'on appelle le quartier français, qu'on appelle aussi la ville blanche, pour l'opposer à l'époque coloniale à la ville noire. Mais nous avions fait le choix de vivre dans un quartier, on va dire, populaire, et avec beaucoup de bonheur, et c'était un lieu d'observation vraiment, vraiment phénoménal. Et j'avais la chance, grâce au dessin qu'avait fait François de cette maison, d'avoir un bureau qui donnait sur la rue, et c'était un poste d'observation vraiment, vraiment magnifique. Et j'étais souvent accoudé à la balustrade, et un jour un ami indien est arrivé et m'a dit: mais qu'est-ce que tu fais? Et je lui ai dit: mais je suis en train de travailler.
L'observation, et effectivement ça peut être un bon critère. Patrice, la part de l'Inde dans ton œuvre, c'est une part importante?
Oui, c'est une part importante. C'est une part. Mon deuxième roman, L'étoile de l'Himalaya, était consacré à l'Inde. Il y en a eu à peu près 4 ou 5 qui ont suivi. Un documentaire aussi pour les enfants qui s'appelle Aujourd'hui en Inde. Ça a été effectivement quelque chose de. Ça reste quelque chose de présent. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne l'écriture, j'étais passé un petit peu depuis quelque temps à justement à plus centré sur la montagne. Mais là, j'ai un projet en cours. Je voudrais ces 25 années que nous avons passées à arpenter l'Inde avec de nombreuses notes, de nombreux documents et de nombreuses pages que j'ai pu écrire là-dessus. Je pense que je vais me mettre un petit peu à l'ouvrage pour remonter le fil du temps jusqu'à cette première année de 1990 où j'ai découvert avec stupéfaction, je dois dire, à 3h du matin, l'Inde.
Ça peut être un très beau, ou plutôt plusieurs très beaux carnets de voyage, en fait, et même voyage avec un S, aussi bien en Kera qu'en Inde. Patrice, on te retrouve normalement donc dimanche.
Dimanche à partir matin, de 11h, oui.
Dimanche matin à partir de 11h au Bleuet. Il y aura également Paulette Specia Montibert et Estelle David qui vont présenter leurs ouvrages Témoins du monde proche et lointain, avec bien sûr des livres à découvrir, la rencontre des auteurs, des dédicaces, vers de l'amitié. Tu aimes bien rencontrer des lecteurs comme ça, ou des personnes passionnées de littérature et de voyage?
Je trouve que c'est essentiel quand dans un travail d'écriture, de temps en temps, de quitter son nid d'aigle pour aller au-devant des lecteurs et pour échanger aussi. Alors je le fais souvent, et nous avons eu l'occasion de mener ça ensemble avec des enfants, avec des scolaires ou des collégiens, plus rarement avec des adultes, mais je trouve que c'est une part très très importante aussi. Non pas pour savoir comment, ce qu'il faut faire, mais parce qu'il y a tellement de façons de lire un livre, et c'est toujours intéressant de voir comment on a été lu, quoi.
Bon dimanche au Bleuet.
Merci.
À Manon.
Merci à tous. Au revoir.
À bientôt, Patrice.